Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Juliette à l'animation, il est 19h, vous écoutez Radio Campus Paris et tout de suite c'est la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
En 2024, le VIH a causé 630 000 décès dans le monde et 1,3 million de personnes ont été nouvellement infectées selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA. Les chiffres restent en baisse, mais l'épidémie est loin d'être terminée. Aucun traitement ne permet d'éradiquer le virus et les acteurs de terrain observent le risque d'une reprise de l'épidémie. Pourtant, depuis les années 80, la lutte contre le SIDA connaît des avancées majeures. En 1996, les premières trithérapies apparaissent, empêchant la multiplication du virus dans le corps. Elles transforment ainsi la vie des personnes séropositives, leur permettant d'envisager une vie avec le VIH. Dans les années 2010, l'accès aux antirétroviraux, les médicaments qui bloquent durablement la réplication du VIH, s'élargit et de nouveaux outils de prévention voient le jour. En 2016, on démontre qu'une personne vivant avec le VIH, sous traitement et avec une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus. Apparaît alors le slogan I égale I, indétectable égale intransmissible. Mais depuis plusieurs mois, l'inquiétude monte. La réduction des financements fragilise l'ensemble de la lutte contre le VIH. Dans certains pays, les baisses budgétaires ont déjà provoqué des ruptures d'accès aux soins ou à la prévention. Les États-Unis, qui finançaient plus de 80% des programmes de lutte contre le virus à l'international, ont suspendu leur aide bilatérale avant de n'en rétablir qu'une partie. La situation française est également préoccupante. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida hier, l'association AIDE tire la sonnette d'alarme. Selon Romain Perrolaz, délégué syndical, l'État se désengage du secteur associatif et l'organisation fait face à une impasse budgétaire persistante. Résultat, plusieurs antennes locales vont fermer, faute de moyens. Les associations rappellent pourtant un paradoxe. En 2024, les laboratoires ont réalisé 8,5 millions de sérologies VIH, soit 13% de plus qu'en 2023. Et pendant ce temps, ces mêmes associations, capables d'aller vers les publics les plus vulnérables, jeunes précaires, personnes migrantes, travailleuses du sexe, personnes trans ou usagers de drogue, ces associations voient leurs ressources diminuer. Ce sont pourtant elles qui permettent de maintenir le virus sous contrôle. En conclusion, un rappel essentiel, la sérophobie nous met en danger, la peur de se tester, de parler, de savoir reste l'un des principaux freins au dépistage et il faut le répéter, une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH, alors protégez-vous et surtout testez-vous. Au programme ce soir dans la matinale, on reçoit Inès Liotard, co-autrice du livre Queer sorti en septembre dernier et ce sera en deuxième partie d'émission. À 19h35, Hortense nous parlera de l'exposition « L'esprit français » dédiée à l'œuvre de Janice Biala à la galerie Pavec à Paris. Paul Augustin sera également parmi nous et se posera la question suivante « À quoi pense-t-on sous la douche ?» Ce sera en toute fin d'émission, alors restez bien avec nous. On est ensemble et en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris, mais tout de suite, on se penche sur la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant en compagnie d'Anne Terlaise, conseillère départementale et représentante de l'intercommunalité de France.
La matinale de 19h.
À quoi ressemblait votre planning quand vous aviez 8 ans ? Aviez-vous suffisamment de temps pour dormir, rêver ou vous ennuyer ? Pour les enfants d'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Fin novembre, la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a publié un rapport qui va dans ce sens. Bonsoir Lia Roisin-Pilot.
Bonsoir.
Vous recevez pour en parler Anne Terlaise, vice-présidente de la cohésion sociale à l'intercommunalité de France, une organisation qui regroupe la quasi-totalité des communes françaises.
Anne Terlaise qui est en principe avec nous, mais au bout du fil. Bonsoir Anne Terlaise, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir à toutes et tous. Oui, je vous entends très bien et je vous remercie pour votre accueil.
Merci à vous. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler quand même ce qu'est une convention citoyenne. C'est un dispositif démocratique qui consiste à tirer au sort des citoyens, 133 personnes en l'occurrence. Elles se sont réunies durant 7 sessions de travail de juin à novembre 2025. Leur objectif, travailler autour des temps de l'enfant et forger des propositions, le tout réuni dans un rapport. L'association intercommunalité invité à contribuer à ce projet. Quel était exactement son rôle dans ce développement ?
Alors, Intercommunalité de France, c'est donc l'association des élus des intercommunalités qui rassemble, comme vous l'avez dit, les trois quarts des intercommunalités qui existent en France. Et comme intercommunalité, nous avions à cœur d'avoir une contribution centrée à la fois sur les inégalités territoriales et cet enjeu de réduction des inégalités territoriales, mais également sur le besoin de coordination des acteurs sur un territoire donné, sur un bassin de vie, pour éviter les ruptures de parcours depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence, voire l'âge adulte, voilà, les jeunes adultes.
Alors, avant d'évoquer les constats de ce rapport à proprement parler, qu'est-ce qu'on entend par les temps de l'enfant ?
Alors, je crois que ce qu'on entend par les temps de l'enfant, c'est vraiment l'adéquation entre la chronobiologie des enfants et le rythme auquel qu'ils subissent, en fait, à la fois, essentiellement sur le rythme des études, en fait, le rythme scolaire, mais également l'articulation entre ce rythme scolaire, qui comprend la plupart des heures qu'ils vivent dans la journée, avec leur vie familiale et leurs activités culturelles ou sportives.
Et alors, comment est-ce qu'ils s'articulent actuellement ces rythmes, ces différents temps de la vie des enfants ?
Mais ils s'articulent très mal, c'est bien l'objet de la convention citoyenne que le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, avait appelé de ses voeux. Et donc, c'est des rythmes qui ne sont pas du tout cohérents avec l'expertise scientifique qu'en font les chronobiologistes. Ce sont des enfants qui, en général, commencent beaucoup trop tôt, des enfants et des jeunes, essentiellement d'ailleurs des collégiens, des lycéens aussi. Donc, on démarre trop tôt sa journée, on a des journées qui sont beaucoup trop pleines, avec énormément de cours, des temps de cours qui sont trop longs par rapport aux capacités de concentration, une pause méridienne à la cantine qui est souvent pas du tout relaxante, assez chargée en termes de bruit, en termes de stress, des enfants qui finissent très tard parce que souvent ils enchaînent aussi avec une étude, des devoirs surveillés, puis potentiellement des activités. Et donc, des enfants qui, finalement, ont très peu de répit dans la journée et pas assez de temps de repos, de relaxation. Bref, ils sont soumis à pression dès leur plus jeune âge.
Alors, ce que vous venez de nous dire, c'est en fait le premier constat qu'a fait cette convention dans son rapport. C'est une organisation des temps qui est inadaptée aux besoins de l'enfant. Alors, au sein de l'Union européenne, la France, c'est quand même le troisième pays avec le plus d'heures d'instruction obligatoire. Désolée de poser la question en ces termes, mais est-ce que les enfants vont trop à l'école ?
Je ne sais pas s'ils vont trop à l'école, parce qu'on verra après que, en matière d'inégalité territoriale, le temps passé à l'école est aussi un temps important pour les réduire. Mais en tout cas, a priori, ils vont mal à l'école, entre guillemets. Voilà. Il faut repenser le rythme de la journée, il faut repenser le rythme des cours, il faut repenser aussi, être très respectueux de leur capacité de concentration. On sait qu'elles sont maximales le matin, elles sont diminuées l'après-midi, notamment après le déjeuner. Et donc, il faut imaginer avoir peut-être des cours le matin sur des matières fondamentales et des choses plus pratiques ou du travail en groupe une autre forme de présence en classe l'après-midi.
Alors, on aura le temps dans un second moment d'évoquer justement, vous le disiez, ces pistes de la convention. J'aimerais revenir quand même sur le temps passé à l'école puisqu'il occupe une grosse partie de ce constat. On entend souvent que les résultats scolaires sont en baisse en primaire et dans le secondaire. Est-ce que justement le rythme des enfants peut avoir une influence positive ou négative d'après vous ?
Alors, c'est pas tellement d'après moi, mais surtout d'après les scientifiques, qui mènent des études et qui ont pu documenter le fait que l'absence de respect du rythme biologique des enfants entraîne une diminution des capacités de concentration et donc une diminution des performances. Ça, associé à d'autres choses, hein, comme des temps de transport qui sont parfois très longs, trop longs, quand on est notamment dans la ruralité, un environnement qui n'est pas toujours aussi sécure qu'on pourrait l'imaginer dans les établissements scolaires. Alors, c'est peut-être moins vrai en primaire, mais c'est assez vrai au collège et au lycée où on voit aujourd'hui l'expression de formes de violence. Il y a, je pense aussi, toute la question des inégalités sociales et territoriales qui s'accentuent, qu'on habite en ruralité ou alors dans des milieux urbains denses, mais où il y a aussi une intensité, une densité de pauvreté. Je pense particulièrement aux quartiers de la politique de la ville, dans les ensembles urbains forts. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question.
Si, c'était assez complet. Et en dehors de ces temps de trajet que vous venez d'évoquer, des temps passés à l'école, est-ce que la question du temps passé sur les écrans a été prise en compte dans ce rapport? Et si oui, quelles sont les conséquences?
Oui, absolument. Il y a toute une partie sur la question des écrans et des applications et des réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qui touche au numérique qui est pris en compte dans ce rapport. Et peut-être faut-il d'ailleurs, j'aurais dû le faire en préambule, souligner la qualité du rapport, la qualité du travail de cette convention citoyenne et évidemment de tous ceux qui ont été auditionnés et expertisés. Et oui, bien sûr, on sait que les écrans ont une influence majeure. Il y a de nombreuses études scientifiques aujourd'hui qui documentent l'impact que peut avoir une exposition trop grande aux écrans et surtout trop jeune. Et donc, elle s'est traitée effectivement dans ce rapport avec notamment un angle sur la parentalité et l'aide à la parentalité. Voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner des parents pour éviter que leur enfant soit trop exposé à ces écrans.
Et donc, une des conséquences directes de tous ces déséquilibres qui sont constatés dans le rapport, c'est que 20 à 30% des enfants souffrent d'un déficit chronique de sommeil, mais qu'il manque également de temps libre.
Et en quoi est-ce un problème ?
De manquer de sommeil, bah ça c'est une évidence, hein. Il faut, pour être performant, bien dormir, c'est là qu'on récupère, c'est pendant les temps de sommeil aussi qu'on apprend en fait, c'est l'inconscient qui fait son travail, pendant le repos nocturne, il se passe plein de choses dans nos cerveaux, et alors c'est encore tout un champ de la médecine qui doit être investiguée, documentée, mais d'ores et déjà, on sait qu'il y a une activité neurologique importante pendant le sommeil. C'est évidemment réparateur physiquement, moralement, psychiquement. Donc, des enfants qui ne dorment pas assez, ce sont des enfants qui potentiellement sont extrêmement vulnérables. Et donc, il faut y faire très attention.
Vous parlez de vulnérabilité. Est-ce qu'on peut faire un lien direct avec toutes les questions de santé mentale qui concernent d'autant plus les jeunes et les enfants? Enfin, du moins, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias dernièrement.
Alors, on peut faire un lien direct entre le manque de sommeil et la question de la santé mentale, qui effectivement est une grande préoccupation aujourd'hui pour les décideurs territoriaux, pour les professionnels de santé. On sait que un sommeil réparateur permet d'être nettement plus serein et donc d'aborder les aléas de la vie quotidienne, y compris quand on est très jeune, hein. Il n'y a pas que les adultes qui peuvent être soumis à des aléas et que ces aléas puissent avoir un impact sur leur vie. C'est vrai aussi pour les enfants, et on est d'autant plus serein, on est d'autant plus capable de puiser dans ses ressources internes que l'on a bien dormi et qu'on est serein. Oui, un manque de sommeil, c'est pareil, c'est documenté, tous les professionnels de santé le savent, peuvent entraîner des crises, des difficultés. Et oui, ça nous rend extrêmement vulnérables.
J'aimerais qu'on revienne quelques minutes en arrière. Vous nous parliez des inégalités territoriales, enfin vous aviez commencé à en parler, mais il y a également les inégalités sociales qui entrent en jeu, Anne Terlez.
Ah oui, absolument. On a par exemple des études bien documentées aussi sur les conséquences de la semaine de 4 jours ou de 4 jours et demi, voilà, sur les enfants des quartiers de géographie prioritaire. Donc ces fameux quartiers populaires d'habitat social qui présentent des indicateurs de très grande pauvreté et une densité de pauvreté. On sait que dans ces quartiers-là, avec toutes les vulnérabilités que les familles présentent, enfin, avoir des journées beaucoup plus chargées, mais moins de jours de présence d'école par semaine, rendent extrêmement difficile le suivi des apprentissages. Autrement dit, dans une école d'un quartier prioritaire où les enfants sont là 4 jours par semaine, ils y vont le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, et on a pu mesurer l'impact d'un week-end entier, c'est-à-dire samedi et dimanche, avant le retour à l'école, et l'impact quand il y avait un samedi matin de présent à l'école. Donc quand on n'a qu'une seule journée et demie en famille, enfin en tout cas en dehors de l'école, la reprise de l'école et des apprentissages est beaucoup plus facile pour les jeunes des quartiers prioritaires en particulier. C'est vrai d'une manière générale, hein, pour tous les jeunes, mais c'est encore plus vrai en quartier prioritaire, quand on vit dans des conditions, dans un cadre qui peut être, le cas échéant, dégradé ou, en tout cas difficile, plus difficile qu'ailleurs.
Et on revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute DBM de Lara Sarkissian. C'était DBM de Lara Sarkissian. Il est 19h19 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
En mai dernier, le président Emmanuel Macron demandait l'organisation de cette convention citoyenne. Donc, sa question était la suivante : comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants ? Et depuis, donc, la convention a rendu son rapport. Pour en parler, Lia Roisin-Pilot est en compagnie d'Anne Terlez, vice-présidente de l'intercommunalité de France.
Anne Terlez, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, toujours présente.
Parfait. Alors, pour répondre à la question du président, le rapport fait une vingtaine de propositions. Les premières portent sur le temps scolaire et parmi elles, l'aménagement justement de ce temps sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Mais est-ce que ce n'était pas déjà le cas ?
Non, c'était pas déjà le cas. Alors, il y a eu une période où on a expérimenté des activités, enfin une journée raccourcie avec des activités périscolaires qui étaient organisées par les mairies. Et puis les financements se sont arrêtés parce que c'est des mesures qui sont relativement coûteuses. Les financements se sont arrêtés. Les communes qui ne pouvaient plus assumer ces charges ont arrêté aussi cette organisation. Et dans tous les cas, on était plutôt sur du 4 jours ou du 4 jours et demi, mais en tout cas pas du 5 jours.
Mais cela concernait aussi bien les élèves de primaire que de collège et de lycée ?
Non, uniquement les élèves de primaire, puisque c'est la compétence de la commune de s'occuper des élèves du primaire, donc maternelle, enfin de la petite section, jusqu'en CM1, jusqu'en CM2, pardon. Et ça ne concernait pas les élèves du secondaire.
Alors parmi les autres propositions, commencer la journée à 9h pour les collèges et lycées, réduire la durée des cours à 45 minutes dans le secondaire, qui décide de ces emplois du temps ? Est-ce que ce sont les établissements scolaires ou bien les collectivités publiques ?
Alors, c'est évidemment les établissements scolaires en premier lieu. En primaire, on a un tout petit peu plus la main, mais c'est quand même le conseil de l'établissement, le conseil d'école qui est souverain. Mais on peut avoir une réflexion avec l'éducation nationale pour mieux s'adapter justement à ces rythmes de l'enfant. Ça plaide en fait, cette question-là qui est extrêmement importante, ça plaide aussi pour une coordination des acteurs et la capacité qu'on pourrait avoir, collectivité, à dialoguer avec l'éducation nationale, avec des experts scientifiques, avec des acteurs locaux, hein, des associations sportives, culturelles, etc., pour mieux penser tous ensemble ces questions de rythme.
Vous me parlez de coordination des acteurs, mais comment est-ce que ça peut se mettre en place très concrètement ? Est-ce que c'est par le biais de la loi ? Est-ce que c'est par des recommandations ?
Alors, je pense qu'il faut... Il faut faire surtout, voilà. Et alors il y a des possibilités d'inscrire dans la loi des outils, c'est-à-dire que les collectivités se dotent d'outils qui existent déjà d'ailleurs. Hein. On pense notamment aux projets éducatifs de territoire, mais c'est pas obligatoire pour toutes les collectivités. Ça dépend de la taille de la collectivité. C'est des outils qui peuvent être assez intéressants, assez puissants même en termes de coordination, de diagnostic. D'abord établir un diagnostic ensemble, ensuite un portrait de territoire et puis de décider qu'on travaille ensemble. Mais ce qui compte le plus, au-delà même de réaliser ces diagnostics et ces plans, ces programmes d'action, c'est de les réaliser. Et donc pour ça, il faut se coordonner un grand nombre d'acteurs et c'était la proposition d'Intercommunalité de France, donc l'association dont je suis vice-présidente, que cette coordination se fasse à l'échelle intercommunale parce que c'est l'échelon pertinent, en fait, c'est l'échelon du bassin de vie, c'est là qu'on organise les transports, c'est là qu'on connaît bien les associations, on a également des contrats locaux de santé, ce qui peut permettre par exemple de travailler la question de la santé mentale des jeunes, on peut coordonner les activités culturelles et sportives, on travaille beaucoup sur l'émancipation avec les missions locales, donc voilà la capacité de lever tous les freins à l'insertion sociale voire professionnelle des jeunes, et donc c'était notre proposition que les intercommunalités soient bien repérées comme étant capables de coordonner tous ces acteurs et du coup de permettre de mettre en place des parcours sans couture, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, qu'il n'y ait pas de rupture de parcours quand on passe de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'âge ado, de l'âge ado à l'âge jeune adulte, et qu'on passe d'un dispositif à un autre.
Mais donc, si j'arrive à vous suivre, d'après vous, l'intercommunalité, ce serait la bonne échelle pour pouvoir mettre en pratique des mesures très concrètes. Par exemple, consacrer la matinée aux apprentissages théoriques, vous nous le disiez tout à l'heure, puis l'après-midi à des ateliers pratiques. Il y avait cette proposition qui consiste à mettre en place des activités artistiques, culturelles et sportives gratuites à partir de 15h30. Tout ça, donc, vous paraît réalisable?
Il faut qu'on dialogue sur le temps scolaire, purement scolaire. Évidemment que c'est l'éducation nationale qui a la main et qui peut en décider. Mais tout ce qui tourne autour, c'est évidemment les collectivités, communes, intercommunalités, etc. Dans un territoire rural, en fait, c'est souvent l'intercommunalité qui est compétente en matière d'activité scolaire, d'activité sportive, pardon, et culturelle, et d'action sociale, et d'aide à la parentalité, etc. Autrement dit, il faut qu'il y ait une alliance territoriale, en fait. Et puisque nous, on a... Alors, bien sûr, l'éducation nationale a des chiffres, un certain nombre de choses, mais nous, on a des diagnostics qui sont extrêmement complets. Et on connaît, les élus en particulier, connaissent finement leur territoire, ce qui fait qu'on a des quartiers prioritaires à tel endroit, que là, on a non pas des quartiers prioritaires, mais des poches de pauvreté, qu'il est très difficile de les repérer, qu'on a des parents qui sont démunis, que la mobilité des jeunes est un sujet, la question de la santé mentale l'est aussi, etc. On sait ça, et on peut accompagner l'éducation nationale et être en complémentarité avec l'éducation nationale sur les autres temps de l'enfant et du jeune.
Alors, ces propositions, elles représentent tout de même un coût. Comment faire alors que les temps de l'enfant sont l'un des champs les moins financés actuellement ?
Mais c'est une excellente question. On aimerait avoir des planches à billets dans les caves, ce que nous n'avons pas. Je pense que c'est posé là un acte très volontaire se dire que aujourd'hui notre jeunesse, alors ça va peut-être paraître des mots galvaudés, mais que notre jeunesse reste quand même la plus grande richesse d'un pays et qu'il faut agir maintenant, tout de suite et de manière massive pour pouvoir les accompagner l'ensemble de ces jeunes, de ces petits-enfants qui grandissent et donc que peut-être pour convaincre les décideurs, il faudrait que l'on soit en capacité de mesurer le coût de l'inaction. C'est-à-dire, si on ne fait rien, si on n'investit pas massivement, si on ne fait pas de la prévention en termes de santé mentale, si on n'accompagne pas les parents à faire face à ces questions d'écran et numérique et à leur présence dans nos vies, etc., etc., si on ne fait pas ça, quel sera le coût sociétal? Et qu'est-ce que ça va coûter à l'ensemble de la société et de manière tout à fait globale, la prise en charge à l'hôpital, etc. Et je pense que si on arrivait à mesurer un peu ça, on se rendrait compte que agir coûte beaucoup moins cher que de réparer tout ce que nous n'aurons pas fait et qui aura des conséquences désastreuses pour la jeunesse et donc pour les adultes de demain et les citoyens de demain.
Alors, vous êtes bien placé pour savoir que dans les différents types d'intercommunalités, toutes n'ont pas les mêmes moyens, qu'il s'agisse de petites communes ou bien de grandes métropoles. Quelle marge de manœuvre ont ces différentes organisations par rapport aux propositions ?
Elles ont des marges de manœuvre qui sont réelles quand même. D'abord parce que parfois la coordination, ça ne coûte pas forcément énormément d'argent. Donc les intercommunalités, elles ont évidemment des moyens qui sont proportionnels à la taille. Les budgets des grandes métropoles sont évidemment beaucoup plus importants que les budgets des communautés de communes. Mais les communautés de communes, elles ont quand même des moyens, des possibilités, etc. Et puis il va peut-être falloir à un moment donné qu'on pose les choses et qu'on se dise que c'est une priorité et que comme c'est une priorité, c'est elle qu'on financera en premier.
J'aurais une dernière question pour vous, mais si l'on regarde quelques années en arrière, la Convention citoyenne pour le climat nourrissait elle aussi de nombreux espoirs, c'était en 2019, mais la plupart de ces propositions n'ont jamais été reprises par les gouvernements successifs. Est-ce que c'est un scénario que l'on peut craindre, qui peut se reproduire pour cette Convention sur les temps de l'enfant ?
Je voudrais nuancer votre propos parce qu'effectivement, la Convention citoyenne sur le climat, peut-être n'a pas abouti à une intégration des propositions dans les programmes gouvernementaux.
En 2021, il n'y avait quand même que 10% des propositions qui ont été prises en compte.
Oui, c'est vrai, mais ça a animé un débat qui a par contre été pris en compte par les territoires. Et je peux vous assurer que dans les intercommunalités qui sont toutes compétentes en matière de transition, ça nous a permis, à plusieurs reprises, ça nous a nourris et nos plans climat, air, énergie, territoire, nos stratégies énergie, climat ont été nourris par les propositions de la Convention citoyenne. Et moi, je crois d'ailleurs que en matière d'accompagnement des jeunes, des enfants et en matière de transition, l'avenir passe par les territoires et par les collectivités territoriales. Et donc, à défaut, enfin, je ne sais pas si les propositions seront reprises et si on trouvera dans les mois à venir, les semaines à venir, un gouvernement suffisamment courageux pour reprendre ces propositions. Mais ce que je sais, c'est que ça va créer du débat. Le rapport, il est d'une grande qualité. Ça va créer du débat et les collectivités territoriales pourront s'en emparer. On l'espère avec l'éducation nationale, parce que c'est bien difficile de mener des actions concrètes à destination des enfants scolarisés sans l'éducation nationale. Mais en tout cas, nous, on fera feu de tout bois. Et ce qui est dans le rapport va nourrir nos réflexions et nos actions.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien.
Merci beaucoup. Merci, merci Lia pour cet entretien. Et tout de suite, c'est le Flash Info de Vladimir.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous. L'actualité en France aujourd'hui, c'est la condamnation du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes, avec une peine d'inéligibilité de 5 ans dans l'affaire dite du chantage à la sextape. Il est reconnu coupable avec 3 autres complices d'avoir organisé un complot contre son premier adjoint, Gilles Artigue, en le filmant à son insu avec un prostitué. Le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu lundi Gaël Perdriau entièrement coupable de chantage, d'association de malfaiteurs et de détournement de fonds publics. Il a annoncé son de faire appel. L'intersyndicale CGT, FSU et Solidaires ont annoncé une grève ce 2 décembre. Selon les organisateurs, quelques 150 rassemblements et cortèges ont été prévus à travers la France. Bien que ce mouvement soit peu suivi dans les transports, il mobilise dans l'enseignement et dans d'autres services publics. Les syndicats dénoncent la politique de rigueur annoncée par le gouvernement et les coupes importantes prévues dans le budget 2026. L'actualité internationale, c'est la visite du pape au Liban. Léon XIV a appelé aujourd'hui à faire prévaloir la paix au Moyen-Orient lors d'une messe devant plus de 150 000 fidèles à Beyrouth. Le pape s'est aussi recueilli sur le site de l'explosion du port de Beyrouth qui a dévasté plusieurs zones de la capitale en 2020. 5 ans après la catastrophe, la justice n'a toujours pas été rendue car les responsables politiques font obstruction à l'enquête. Léon XIV a rencontré les familles et les victimes et a déclaré porter en lui la soif de vérité de tout un pays. À Hong Kong, le dirigeant de la ville a annoncé mardi la création d'un comité indépendant pour enquêter sur les causes de l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine dernière, faisant au moins 156 morts et une trentaine de disparus. Selon les autorités, les filets utilisés sur les échafaudages étaient non conformes aux normes incendie et ont permis aux flammes de se propager. Bien que la tête de l'exécutif promet une enquête indépendante, la répression reste importante à Hong Kong, où la société civile a de plus en plus de mal à s'exprimer. Un étudiant de 24 ans, à l'origine d'une pétition réclamant des comptes après l'incendie, a été arrêté par la police. L'ONG Human Rights Watch a exhorté mardi le gouvernement de Hong Kong à garantir une enquête transparente et à établir les responsabilités. Enfin, et pour finir, c'est une déflagration qui touche le monde du théâtre parisien. Le Théâtre du Soleil à Vincennes est visé par une enquête de la Brigade de protection des mineurs de Paris. Deux comédiens de la célèbre troupe sont accusés d'avoir agressé sexuellement des jeunes filles et des femmes pendant au moins 15 ans. Une des plaignantes a dénoncé un environnement de messe-basse, de manipulation constante, d'addictions diverses et de sexualité imposée. Les propos de la directrice du théâtre, Ariane Mouchkine, posent question quant au respect des engagements contre les violences sexistes et sexuelles du théâtre.
Merci beaucoup Vladimir pour ce flash. On revient après une petite pause musicale. On écoute A Child with the Blues d'Erika Badou.
Bad. would make you so very sad. I don't know what to do. I just feel so confused. I'm a child with the blues. Take your time, smell the flowers. Make a smile for yourself. Girl, don't make living so hard. So hard, so hard. I keep telling myself. Sometimes it ain't at all damn fair. A child with the blues. Sister, sisters, I know you're watching me. There are a lot of games reaching for you constantly. Brace yourself, protect yourself, face yourself. Feel like my life is just existing, and I'm missing someone. It's hard to replace a simple fact. 'Cause my lover is gone, gone on. Never too young to pay your dues. And if you're walking in my shoes, you're a child with the blues. So blue.
C'était A Child with the Blues d'Erika Badou. Il est 19h38. Vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Radio Campus Paris.
Et tout de suite, Hortense va nous parler de l'exposition L'Esprit français dédiée à l'œuvre de Janice Biala à la Galerie Pavec à Paris. On t'écoute.
Bonjour à tous et merci Juliette. Alors aujourd'hui, pour la chronique Actu, j'aimerais vous parler d'une artiste du XXe siècle. Alors, oui, on ne dirait pas, mais je vous jure, c'est actuel. Car en effet, la galerie Pavec, dans le Marais, dédie en ce moment une exposition à Janice Biala, artiste née en 1903 et morte en 2000. Cela faisait 38 ans qu'elle n'avait pas été exposée en France. Alors, qui est cette Janice Biala qu'on a la chance de pouvoir découvrir jusqu'au 20 décembre à la galerie Pavec ? Elle est assignée au mouvement de l'expressionnisme abstrait. Mais cette artiste remarquable a traversé tout le XXe siècle pour aboutir à son style. Depuis la Pologne, où elle est née, elle arrive à New York pendant son enfance, où la rétrospective de Cézanne de 1921 la choque et la convainc de faire de l'art le sens de sa vie. Elle apprend à peindre à Princeton où d'emblée, elle a une passion pour la couleur. Toutefois, le vrai tremplin de sa carrière se trouve en 1930 quand elle déménage à Paris et rencontre Ford Madox Ford, son futur époux, mais aussi et surtout la scène parisienne de l'époque. De Gertrude Stein à Matisse, elle baigne dans l'univers des avant-gardes. De retour à New York avant la guerre, elle prend part au mouvement de l'expressionnisme abstrait et se tient auprès des artistes du color field comme Kooning. Jusqu'à sa mort, en 2000, elle continuera ses allers et retours entre la France et les États-Unis. Peu à peu, elle s'impose comme une référence et va conseiller de nombreux jeunes artistes. Mais qu'est-ce que ça donne picturalement parlant ? Alors, concernant le visuel, ces toiles sont particulièrement reconnaissables pour leur éclat coloré, déposé par coup de pinceau ou par aplat sur la toile. Pour elle, la couleur était la base de la composition de ces toiles. Sans couleur, il n'y a pas de tableau. Néanmoins, si Biala part de la couleur, elle l'utilise pour représenter des éléments du réel, un paysage, une voiture, un appartement. Les formes sont reconnaissables. Pourtant, elles semblent être passées par le filtre imaginatif de l'artiste qui brouille leur figuration propre. Ce regard si particulier qu'elle porte sur le réel est assez reconnu outre-Atlantique. Elle a sa place même dans l'histoire de l'art et dans les musées. Néanmoins, en France, c'est largement moins le cas. Pourtant, comme nous l'avons vu, l'artiste a bien des choses à voir avec Paris. C'est ce que met en lumière l'exposition de la Galerie Pavec. Son nom même, l'esprit français, fait bien référence à l'attachement de l'artiste pour ce pays. En effet, la France évoque chez elle un sentiment familier, celui d'un pays européen comme la Pologne. De plus, de retour en France après la guerre, l'artiste déploie son talent dans Paris, qui lui offre la reconnaissance et l'espace poétique qu'elle recherche. La ville lui donne l'inspiration. Elle peint de manière presque exhaustive les motifs qu'elle rencontre, notamment les paysages et l'architecture. Pour rendre hommage à cette femme, à ce travail indépendant et fulgurant dans un siècle plus que misogyne, je vous invite à vous rendre aux 4 rues de Jarente, à sonner à l'interphone, à traverser la cour et à visiter l'exposition « L'esprit français » de la Galerie Pavec. Je vous l'accorde, le chemin est un peu long. Si vous n'en avez pas le temps, néanmoins, je vous invite à lire l'article de Karine Chichero, écrit en 2022, qui m'a beaucoup aidée à construire cette chronique.
Merci Hortense, foncez voir l'expo. Et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Ce soir dans le Zoom, on reçoit Inès Liotard, autrice du livre Queer, paru en septembre dernier. Un ouvrage écrit à quatre mains avec Philippe Liotard qui retrace l'histoire transatlantique et les usages du mot queer, terme souvent incompris. Et à mes côtés pour ce Zoom, Adèle Mondière qui va mener cette interview. Salut Adèle.
Salut Juliette et bonjour à tous. Bonjour Inès. Merci d'être avec nous ce soir. Donc tout d'abord, je voulais savoir quelles étaient vos motivations pour écrire ce livre et aussi pourquoi l'avoir écrit à deux, donc avec votre père.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là ce soir. Nos motivations pour écrire le livre et l'écrire avec mon père, c'est qu'on s'est rendu compte, enfin on le savait déjà, mais qu'on travaillait sur le queer tous les deux d'une façon différente et surtout sur des thématiques différentes. Parce que moi j'ai travaillé sur le côté militant du queer et le côté académique du queer et de la théorie queer. Et mon père, lui, a plutôt travaillé sur le corps, le punk et les modifications corporelle. Et donc, l'idée du livre est venue de ce fait de pouvoir écrire un livre qui mélangerait nos différentes connaissances et nos différentes approches.
C'est super. Et du coup, le livre, il commence sur une citation d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et dans cet extrait, le mot queer, il apparaît dans son sens initial qu'on pourrait traduire en français de étrange, de bizarre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le sens du mot queer, il a évolué jusqu'à aujourd'hui ?
Bien sûr. Donc queer au début, ça veut dire tordu, ça veut dire bizarre. Et il va commencer à être repris au tout début comme un retour du stigmate au début du XXe siècle aux États-Unis. Le sens du mot comme homosexuel va être attesté à partir de 1920. Le mot queer, comme on l'entend aujourd'hui, qui n'est pas seulement un synonyme d'homosexuel, même s'il peut l'être quelquefois, va être attesté surtout à partir des années 80, quand des lesbiennes chicanas comme Gloria Anzaldúa vont le reprendre comme un retour de stigmate, mais qui veut plus seulement dire homosexuel, et jusqu'à du coup après les années 90, où vont être théorisées cette théorie queer.
Et donc, ce mot queer, il est différent de l'acronyme LGBT, qui est souvent présenté comme son synonyme. Comment cela ?
Et ben ça, c'est vraiment une très bonne question et c'est compliqué d'y répondre parce que le queer, pour certaines personnes et certains individus vont définir le queer comme un synonyme d'LGBT. En fait, le queer peut avoir plusieurs définitions selon les usages qui en sont faits. Et ce qui va quand même, à la base, différencier le queer du LGBT, c'est un refus de s'identifier. Et c'est en cela qu'il peut être très différent du LGBT.
Et est-ce qu'il vous semble du coup important de sortir ce livre aujourd'hui, alors que l'extrême droite, elle est de plus en plus populaire un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis où est né justement ce mot ?
Oui, il nous semble important parce que je pense que ce qui me semble important dans ce livre, c'est de revenir aussi à des bases académique du queer, parce que bien sûr le queer militant est super important, les deux sont super importants, mais que du coup revenir à une base académique, ça permet aussi de répondre de façon scientifique aux attaques qui seraient faites aux études de genre par exemple, et de montrer aussi que la théorie queer est aussi issue de théories académiques et qui sont justifiées par des méthodes scientifiques.
Et dans le livre, vous mettez aussi en exergue la phrase « se désigner ou désigner son engagement comme queer est aussi une manière de continuer à nommer l'innommable en des termes propres et nécessaires ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que c'est aussi dans cette idée de politisation du mot queer ?
Oui, c'était un peu l'idée que le queer a permis à un moment de nommer ce qui pouvait pas être nommé, c'est-à-dire que le queer peut être vu comme une forme d'utopie sémantique, une utopie où on peut parler à partir de ce mot d'un monde qu'on aimerait rendre réel, un monde où les identités de genre pourraient être défaites. Et donc, le mot queer a permis de dresser cette utopie-là.
Et est-ce que vous pensez un peu plus largement que l'étude d'un mot, elle peut permettre de mieux comprendre notre société ?
Oui, complètement. En fait, dans la collection Le mot est fait de Namosa, il y a quelque chose qui est super intéressant, qui est de reprendre généralement un mot qui a été un peu dévié de son sens premier. Il y a beaucoup de mots qui ont été des mots qui étaient à la base très à gauche et qui sont devenus des mots réactionnaires. Alors le queer, c'était un peu différent, mais c'est vrai que c'était super pour réétudier ses usages et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé travailler pour la collection du mot est faible.
Et est-ce que vous avez des exemples justement de mots qui ont eu le chemin inverse justement du mot queer ?
Oui, bah ça peut être le cas avec par exemple le mot peuple ou même des fois le mot féminisme avec aujourd'hui le féminisme de Némésis. Donc c'est aussi des mots qui sont publiés avec les ouvrages de Cohen et Éléonore Lépinard, je crois, dans Le mot est faible.
Et du coup, vous avez publié ce livre justement dans cette collection, Anamosa. Et du coup, pour quel public il est visé ce livre ?
Je pense qu'il est visé pour un public un peu différent. On a essayé, alors c'est toujours un peu compliqué de le rendre le plus accessible possible, mais je pense que ce qui était bien, c'est qu'il y a un super travail éditorial qui a été fait aussi avec notre éditrice Chloé Pathé. Il me semble que la force de la collection, c'est d'être quelquefois visible en dehors des rayons de sciences sociales et donc de pouvoir un peu attirer d'autres formes, d'autres regards. Par exemple, en faisant la soirée de lancement du livre, c'est dans ma librairie de quartier. Et ce qu'on a trouvé génial, c'est qu'il y avait des gens qui ne seraient pas du tout venus écouter un livre sur le queer qui sont venus. Et donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Ça nous a fait pas mal plaisir.
Je voulais revenir un petit peu sur l'histoire du mot queer et reparler du coup, il est apparu en Amérique, mais il a aussi, il a traversé l'Atlantique pour arriver en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment il a été perçu en France ?
Oui, bien sûr. Aux États-Unis, il y a vraiment une année importante, qui est l'année 90, où au même moment vont émerger à la fois une théorie queer et un queer militant. Donc en mars, il va y avoir l'ouvrage de Butler, l'ouvrage de Butler, On trouble dans le genre. Et en juin, il va aussi y avoir un groupe politique qui s'appelle donc le Queer Nation qui va émerger. Le queer a commencé un peu à émerger aussi en France à ce moment-là. Et à la fois par des échanges entre des groupes militants et aussi donc des théories académiques, et aussi les deux un peu mélangés parce que c'est pas du tout forcément différenciés. Et en France, il y a un moment qui a un peu cristallisé les questions de traduction, parce que quand même, en anglais, queer, il y a une question de retour de stigmate qui, en français, est peut-être plus compliquée. Et donc, c'est vraiment posé la question de traduire ou non le queer. Et donc, tous ces enjeux sont cristallisés en 97, lors d'un colloque organisé au Centre Pompidou. Et donc, la question était de savoir s'il fallait ou non traduire le queer. Et il y a eu plusieurs étapes où vraiment on a voulu traduire le queer, et selon les moments, depuis, donc là c'était en 98, depuis il y a eu des retours justement à des traductions qui seraient vues comme mieux que le queer, comme par exemple le transpédéguine, pour revenir à l'insulte. Mais ça reste encore des débats qui sont toujours présents aujourd'hui.
Et donc justement aujourd'hui, si vous deviez mettre une définition sur le mot queer, ce serait quoi?
Alors, en une phrase, c'est compliqué parce que je le dirais en cinq phrases, mais je vais le dire en une phrase. Je dirais que ce qui unifie toutes les définitions que j'ai pu rencontrer dans mon terrain, parce que moi, j'étais allée voir des gens pour connaître toute la définition et pour faire une typologie de toutes les définitions. Mais je dirais que ce qui est commun, c'est une volonté de s'affranchir des normes de genre et ou de sexualité.
Merci beaucoup. Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez des recommandations culturelles, donc des films, des livres, des séries, des pièces de théâtre, pour pouvoir découvrir un peu plus tout le spectre du mot queer?
Oui, bien sûr. Je vais parler peut-être surtout de maisons d'édition, je pense, parce que je connais le mieux. Mais je pense vraiment à Hystérique et Associés, des maisons d'édition comme Blast, et Divergence, Sorcières de Cambourakis. Et je pense, là j'ai vraiment en tête aujourd'hui ce livre, mais le livre de Leslie Feinberg, Stonebridge Blues.
D'accord, merci beaucoup. Et vraiment, c'était super sympa d'être venu pour prendre le temps de répondre à mes questions. Et donc, pour rappel, votre livre s'appelle Queer, il est écrit avec Philippe Lyotard et est disponible aux éditions Anamosa. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Inès Lyotard pour votre présence en studio. Merci Adèle. Et tout de suite, on écoute A Sadist Pussy Got Me Acting Strange de Mimi Def. C'était A Sadist Pussy Got Me Acting Strange de Mimi Death. Il est 19h52, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'est presque la fin de cette matinale, mais pas tout à fait, puisque Paul Augustin est avec nous en studio. Alors, à quoi pense-t-on sous la douche?
Très bonne question, à quoi on pense sous la douche? Je me suis posé cette question, et qu'est-ce qu'on fait sous la douche? On réfléchit, mais à quoi? Est-ce que nos pensées se concentrent uniquement sur nos mains qui savonnent notre corps? Est-ce que certains se repassent en revue leur journée? Est-ce qu'ils anticipent celle qui va se dérouler? Est-ce que nous sommes tristes ou bien joyeux? Quelques-uns ou quelques-unes seraient peut-être endormis, les yeux mi-clos, mi-détruits, avec un taux d'alcool assez élevé pour perdre 3 fois son permis. Est-ce que la douche, si on bouche le trou de sa bouche, se rebouche, est aussi solide qu'une souche, on ne pourrait la déboucher, même avec une louche? Enfin bref, c'est ce que certaines personnes peuvent se dire sous la douche. Et cet endroit, c'est aussi un moment de notre quotidien où on se retrouve absolument seul avec ses pensées. Alors le mot douche, il est issu de l'italien doccia, issu de docciare, lui-même issu du latin docitunem, lui-même issu de ducere, lui-même issu de duck, lui-même issu de burk, enfin bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que son origine étymologique signifie conduire. Conduire, d'accord, très bien, mais conduire vers où? sans doute vers une grande traversée introspective où l'eau devient notre sentier, pour une balade immersive jusqu'à nos rêves qui se confondent entre illusions, fantasmes, fiascos et fictions. Alors d'après une étude que j'ai menée avec la plus grande rigueur et validée par le Comité international des recherches loufoques en tout genre, le CIRLTG, plusieurs résultats sont ébouriffants. Installez-vous confortablement et je n'ai pas envie que votre cœur s'arrête. Parce que ça en vaut vraiment pas la peine, croyez-moi. Mais avant d'entrer dans les détails, voici quelques éclaircissements sur les 60 répondants qui ont eu l'immense honneur de participer à cette enquête inédite. Alors pour commencer, au-delà d'être une enquête sur la douche, c'est aussi une étude sur la jeunesse. 88% ont moins de 25 ans. Et la plupart se douchent le soir et restent entre 6 à 9 minutes sous le jet pour laver leurs mauvaises décisions de la journée passée. Mais pour une personne sur deux, la douche sert à planifier, par exemple, le futur modèle politique révolutionnaire ou à se demander « et si je chiais dedans ?» Bon, chacun sa merde, hein, j'ai envie de vous dire. Mais 38% des sondés dépassent les 10 minutes sous la douche, pendant que l'OMS prêche les 4 minutes d'eau raisonnable. Alors, est-ce que ces chiffres suffiront à laver nos consciences? Je ne suis pas sûr, mais bon. On va arriver enfin à la question que tout le monde se pose tous les jours, celle qui va rester planer au-dessus de votre tête comme un pou accroché à son cheveu. À quoi pense-t-on vraiment quand on est sous la douche? Donc on y arrive. Si nous pensons majoritairement aux tâches à accomplir pendant la journée et aux interactions avec nos congénères, nous pensons, et oui, en grande partie, à se laver. C'est pas fou hein, quand même comme résultat. Mais ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est le tiers des gens qui se perdent dans des réflexions métaphysiques bien surprenantes. Il y en a eu des belles. Et il y a eu des personnes qui se sont posées des questions existentielles, comme par exemple, suis-je une licorne à paillettes? Ou qu'est-ce qui se passerait si un astronaute devenait un cochon alors qu'il est dans l'espace? Je veux bien la réponse si vous la trouvez. Mais allez savoir pourquoi, et je pense que tout le monde se l'est déjà demandé. Personne n'a trouvé la réponse, mais plusieurs personnes se sont posées cette question. Est-ce que c'est possible de se mettre le pommeau dans le fessier? Savoir, il faut bien tenter. Donc en fin de compte, les gens qui sont quand même sous la douche sont heureux et apaisés. Il n'empêche qu'il subsiste des nerveux et des fatigués entre est-ce que chaque produit que j'utilise est bon pour ma santé et putain hier j'étais vachement bourré, entre est-ce que j'ai changé et faut-il quand on fait pipi sous la douche éviter ses pieds. Une seule chose est certaine, le monde est beau par sa diversité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Paul-Augustin. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à nos invités Anne Terlez et Inès Lyotard. Merci également aux bénévoles qui ont participé. Lia, Adèle, Vladimir, Hortense, Paul-Augustin. Merci à Joé qui était ce soir à la réalisation. Merci à Jeanne et Aude qui coordonnent la matinale. C'était Juliette à l'animation. Restez bien sur Radio Campus, tout de suite à Contre-Taf jusqu'à 21h. Et surtout, retrouvez-nous demain, même lieu, même heure, 19h pétante pour une belle matinale.